Bonjour. Donc moi, je suis Jean-Luc Maria, je suis un des quatre cofondateurs et aujourd'hui le CEO, le PDG de la société ExoTrail.
Alors, quel a été votre parcours d'étudiant?
ExoTrail, vous allez le voir, hein, je vais vous expliquer après. C'est une société qui intervient dans le domaine spatial. Et donc, mon parcours étudiant, sans surprise, a été tourné vers les sciences d'abord. Donc après un cursus un peu général, j'ai intégré une prépa Mathsup, à suite de laquelle j'ai intégré du coup une école d'ingénieurs. Voilà, et c'est lors de ce parcours-là que dire, la passion pour le spatial s'est confirmée. Mais donc voilà, vu la nature d'activité que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment une formation scientifique qui a été celle que j'ai suivie.
Alors, quel a été votre parcours professionnel?
Alors, à la suite de mes études, que j'ai terminées il y a quelques années, hein, 2002, ça commence à faire un petit peu, j'ai intégré le CNRS, donc qui est le Centre national de la recherche scientifique en France. Et avant ça, en fait, durant mes études, j'ai eu la chance justement de suivre un cursus où il y avait beaucoup de stages à réaliser en cours d'études. Et donc, j'ai pu multiplier le nombre de stages en 4 ou 5 à l'étranger, en France, dans des entreprises privées, dans des laboratoires de recherche. Donc, ça m'a permis, voilà, de voir un peu ce qui me plaisait, où est-ce qu'il pouvait y avoir des opportunités dans le domaine qui m'intéressait, qui était le spatial. Et donc, à la sortie de mes études, j'ai eu l'opportunité de rejoindre le CNRS sur des projets de développement d'équipements, ce qu'on appelle d'instruments, qu'on va placer sur des satellites. Et j'ai en particulier commencé avec un sujet assez rigolo qui était de développer un petit instrument, un petit capteur pour aller mesurer la météo martienne, donc sur la surface de Mars, où on allait essayer de regarder la quantité de poussière qu'il y avait dans l'atmosphère, parce que la poussière est un des éléments qui va gérer le climat sur la planète Mars. Et donc j'ai démarré par là, par un projet très technologique, spatial. Et donc là, ça a confirmé l'intérêt que j'avais pour ce domaine-là. Et finalement, j'ai continué au CNRS à intervenir en tant que ce qu'on appelle ingénieur système, mais assez vite en prenant des responsabilités de gestion de projet, justement de développement d'équipements, d'instruments embarqués sur satellite pour des missions scientifiques, bien sûr. Le CNRS reste un organisme de recherche. Et donc, j'ai eu la chance de travailler sur des équipements qui ont été envoyés autour de Mars, autour de Vénus, autour de Mercure en particulier. Donc ça m'a occupé pendant un peu plus d'une dizaine d'années, jusqu'en 2013 à peu près. En 2013, j'ai voulu changer. Alors, je suis toujours en restant au CNRS. En fait, j'ai pris la responsabilité ce qu'on appelle une plateforme technologique, qui était en fait un lieu où on avait des équipements qui permettaient de tester des équipements spatiaux, mais aussi des équipements scientifiques terrestres. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai pu en fait commencer à réfléchir au sujet d'ExoTrail via des rencontres, hein, on va le voir par la suite, mais c'est vraiment dans cette nouvelle fonction que j'ai pu du coup rencontrer un chercheur en particulier qui travaillait sur des thématiques de propulsion spatiale. Et en fait, on a monté ensemble un projet qui a donné lieu aux prémices d'ExoTrail. Et après, j'ai donc quitté le CNRS, le laboratoire, pour me consacrer à temps plein au sujet d'ExoTrail.
Très bien. Alors, qu'est-ce qu'ExoTrail?
Donc, ExoTrail, c'est une entreprise, hein, on appelle une start-up en France. Pareil, je pense qu'on va en parler dans la suite, mais c'est une entreprise du domaine spatial qui est en fait dédiée au sujet de la mobilité spatiale. Donc, très très rapidement pour vous expliquer un peu ce contexte, et puis ça sera illustré par les produits, hein, ensuite autour desquels on va discuter. Mais quand vous êtes dans l'espace, vous avez besoin de bouger. C'est-à-dire, vous êtes un satellite, alors vous bougez naturellement parce que vous êtes en orbite autour de la Terre, mais en plus de ça, en fonction de la phase de vie de votre satellite, vous avez besoin de bouger. Donc, par exemple, tout de suite après le lancement, la fusée, elle ne va pas forcément amener votre satellite à l'endroit exact où il va devoir fonctionner. Et donc, il reste un petit peu du trajet à réaliser. Donc, ça, c'est de la mobilité. Une fois que vous êtes arrivé à l'orbite, à la position où vous devez fonctionner, eh bien, il va falloir garder cette position pendant toute la durée de vie de votre satellite, pendant plusieurs années. Et en fait, il y a plein de phénomènes dans l'espace qui font que cette position elle a tendance à un petit peu bouger. Et donc, il vous faut aussi un élément de mobilité pour rester, pour contrer un peu ces effets et rester tout le temps à la bonne position, là où vous allez vraiment effectuer la mission que vous avez et le service que vous avez. Et puis, il y a aussi deux éléments de mobilité supplémentaires qui sont pendant votre mission. Et parce qu'il y a de plus en plus d'objets dans l'espace, il y a de plus en plus de satellites, bah, régulièrement, il faut que vous bougiez pour éviter de rentrer dans un autre objet, c'est-à-dire d'éviter des collisions. Donc là aussi, il vous faut un élément de mobilité pour vous déplacer un petit peu, le temps d'éviter la collision. Et puis en fin de vie, de plus en plus, pour des raisons un peu de durabilité de l'espace, il vous faut de la mobilité aussi pour bouger votre satellite. Alors soit le faire rentrer dans l'atmosphère pour qu'il se consume dans l'atmosphère et que donc il ne pollue pas l'espace, ou alors le mettre à des positions qui va moins gêner l'usage de l'espace au sens large. Donc tout ça, ce sont des besoins de mobilité, c'est le sujet d'ExoTrail, et en fait on va développer et on commercialise différents produits, des produits logiciels, des produits, des moteurs, et puis des services de transport orbital qui vont permettre de résoudre ces besoins de mobilité.
Alors, avez-vous une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiant ou professionnel qui vous a influencé pour vous orienter sur une carrière liée au spatial ?
Alors, pas vraiment, en fait. C'est en toute honnêteté. En fait, je pense qu'il y a deux natures un peu d'étudiants. C'est soit vous avez vraiment un objectif depuis très longtemps et vous orientez votre parcours professionnel pour, in fine, arriver à travailler sur le sujet qui vous motive. Ou alors, vous n'avez pas forcément une idée préconçue du domaine exact dans lequel vous voulez travailler. Et dans ce cas-là, vous suivez plutôt un parcours un peu plus généraliste de formation. Donc, ce qui a été mon cas, donc, la formation scientifique que j'ai suivie a été finalement assez généraliste. Ce qui m'a permis en fait, de m'ouvrir à différents domaines. Hein. J'ai réalisé des stages pas que dans le spatial, dans la métallurgie, dans la chimie. Et petit à petit, c'est ça qui a permis de me faire, moi, converger vers le domaine spatial qui a été finalement celui que j'ai retenu. Mais ça a été plutôt la construction d'un parcours généraliste nourri par des stages d'application qui, là, permettaient vraiment de se confronter à des vrais domaines. Qui m'a permis finalement de confirmer que c'était le spatial qui me plaisait et qui était le domaine dans lequel je voulais finalement travailler. Et puis après, même finalement, après plusieurs années dans le spatial, le spatial, c'est un domaine forcément qui peut faire rêver. Ça reste un domaine très, très pratique, très pragmatique, hein, où on a des besoins en mécanique, en optique, en électronique, globalement à peu près tous les métiers de l'ingénierie. Et donc, un peu avec ce recul, je me dis qu'on peut arriver dans le domaine spatial avec beaucoup de formations différentes. Il n'y a pas une formation unique pour finalement arriver à travailler dans ce domaine-là. La plupart des métiers de l'ingénierie permettent, si on le souhaite, de s'orienter ensuite dans le domaine spatial.
Alors, l'apparition des nouveaux lanceurs nous insère inévitablement dans un nouveau marché. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Une bonne question. Les lanceurs aujourd'hui, il y a effectivement une accélération de l'offre et donc du nombre d'entreprises qui essaient de fabriquer des lanceurs. Alors, je dis qui essaient parce qu'il y en a beaucoup des connus qui y arrivent déjà. Donc, des sociétés comme Arianespace avec les lanceurs Ariane, comme SpaceX avec la fusée Falcon 9 en particulier, puis beaucoup d'autres. Mais il y a toute une nouvelle génération d'entrepreneurs, pour le coup. Donc, c'est vraiment une approche très start-up du domaine pour essayer d'augmenter encore l'offre d'accès à l'espace. Parce que même si j'ai dit qu'il y avait déjà beaucoup de sociétés qui maîtrisaient le sujet, finalement, ce n'est pas encore suffisant par rapport à tous les besoins qu'il y a et qu'il pourrait y avoir surtout dans les années à venir. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le spatial a une tendance à se démocratiser. On utilise au quotidien beaucoup d'applications qui sont possibles uniquement parce qu'il y a des satellites autour de nous. Le GPS en est un bon exemple. Le suivi de l'environnement, la météo, les prévisions, tout ça ne sont possibles aujourd'hui que parce qu'il y a des satellites. Et donc, il y a un enjeu global qui est que l'espace se démocratise et est rentré dans nos vies. Et donc, il y a de plus en plus d'applications pour répondre à des besoins terrestres qui peuvent se résoudre par l'utilisation de l'espace. Et donc, à un moment donné, ce qu'il faut, c'est accéder à l'espace. Et donc, il faut des fusées. Et c'est pour ça qu'il y a cette émulation aujourd'hui dans le monde, hein, avec de plus en plus d'acteurs lanceurs, l'autre mot pour parler d'une fusée, qui permet finalement de déverrouiller ce passage qui est compliqué, hein, d'un point de vue technologique, qui est de passer de la Terre à l'orbite. Donc là, pour revenir sur ExoTrail, c'est pas du tout là, nous, on intervient. Nous, on intervient une fois que le lanceur est dans l'espace. Parce que, comme je vous l'ai dit, après, il y a plein d'autres besoins de mobilité. Le lanceur ne peut pas tout faire. Mais le lanceur est la clé, justement, pour accélérer des usages terrestres permis depuis l'espace.
Alors, la diversité des satellites mis dans la coiffe des nouveaux lanceurs ont besoin de différents propulseurs adaptables à leurs spécificités. Exemple, mettre sur des orbites particulières une catégorie de satellites et favoriser leur longévité pour un maximum de récolte de données. Quelles sont les caractéristiques des propulseurs mis au point par l'équipe d'ExoTrail ?
Chez ExoTrail, on développe donc un ensemble de solutions de mobilité pour l'espace. Et une de ces solutions, ce sont des propulseurs, des moteurs. Mais ce n'est pas la seule. On développe aussi d'abord des logiciels pour bien comprendre quel est le besoin de mobilité de nos clients. Et ça, c'est fondamental. C'est avant de choisir une solution technique, il faut d'abord bien comprendre le problème. Ça, c'est l'approche scientifique. Et le problème de mobilité, il se traite d'abord par un logiciel. C'est un logiciel où vous allez concevoir votre mission, on en reparlera après. Mais ça, c'est la porte d'entrée pour bien comprendre ce besoin de mobilité. Et puis, pour résoudre ce problème de mobilité, ce besoin de mobilité, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez un moteur sur vos satellites, soit parfois, il vaut mieux pas mettre de moteur ou pas forcément un très gros moteur, et globalement acheter un ticket de bus. C'est l'analogie avec la Terre. Parfois, vous possédez votre voiture, donc là, on vend un moteur. Et puis parfois, vous n'avez pas envie de posséder votre voiture, mais par contre, vous profitez d'un service de transport en commun, et c'est un peu l'analogie. Donc, pour le premier cas de figure qui est où vous voulez avoir votre propre moyen de mobilité, donc là, nous, on répond à ce besoin-là pour les opérateurs de satellites en fournissant des propulseurs. Et effectivement, ce propulseur, il va permettre, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, après le lancement, de rejoindre l'orbite opérationnelle, de maintenir la position du satellite sur son orbite pendant toute sa durée de vie, et en fin de vie, de bouger le satellite, soit de le faire redescendre, soit de le mettre sur une orbite parking. Et en fait, les moteurs qu'on développe chez ExoTrail sont, on va dire, des moteurs de nouvelle génération, très, très succinctement dans l'espace. Historiquement, vous avez de la propulsion des moteurs qu'on appelle chimiques. Vous emportez des produits chimiques, vous les faites réagir entre eux, ça crée une réaction chimique, ça éjecte beaucoup de matière, et donc c'est ça, ce principe de réaction qui fait que votre satellite va bouger. Et puis, il y a quelques années, on a trouvé des moyens plus efficaces de bouger les satellites, et c'est ce qu'on appelle la propulsion électrique. Alors, ce n'est pas tout à fait comme sur les voitures, mais quand même un peu, c'est qu'en fait, vous utilisez les panneaux solaires du satellite pour charger des batteries, et vous utilisez un moteur qui va utiliser cette énergie électrique pour accélérer de la matière. Et là, ce qu'on accélère, nous, ce ne sont plus des molécules chimiques, ce sont des atomes. Donc, on descend de plusieurs ordres de grandeur en termes de taille. Et par contre, on va les éjecter beaucoup plus vite. Et donc, on a des moteurs qui sont finalement beaucoup plus efficaces. C'est-à-dire, pour la même quantité de carburant, vous allez pouvoir aller plus loin. Alors, vous poussez moins. Ça, c'est un peu le désavantage de la propulsion électrique par rapport à la propulsion chimique. Bon, ça a aussi très souvent des avantages en termes de flexibilité de mission. Mais en tout cas, vous pouvez faire des moteurs plus petits. Et ça, c'est intéressant parce que, un, vous pouvez miniaturiser les satellites. C'est typiquement ce qui s'est passé depuis plusieurs années. On est passé lunaire à très gros satellites à une ère où aujourd'hui les satellites sont plus petits. On en met par contre beaucoup plus autour de la Terre, voilà, des CubeSats, des nanosats, on va dire des petits satellites au sens large. Et quand vous en mettez plusieurs autour de la Terre, c'est ce qu'on appelle des constellations de satellites. Et là, c'est intéressant parce que par rapport à un, vous allez pouvoir avoir typiquement une meilleure visibilité de la Terre, en tout cas plus fréquente. Et donc, il y a plein d'usages de monitoring du changement climatique, de connectivité, de positionnement qui sont intéressants parce que vous mettez des satellites plus petits et vous en mettez beaucoup plus. Et donc, ce type de propulseurs qu'on développe chez ExoTrail sont des moteurs plus efficaces basés sur ce qu'on appelle la propulsion électrique qui va permettre justement de favoriser la mobilité de cette nouvelle génération de satellites qui sont plus petits. Voilà.
Alors, comment vous est venue l'idée de proposer cette catégorie de propulseurs pour ces catégories de satellites ?
Alors là, on va remonter un petit peu l'histoire, hein, à la création d'ExoTrail, ou même un petit peu avant, où j'ai commencé du coup à réfléchir à ce sujet-là, en étant au CNRS. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer un chercheur qui travaillait depuis plusieurs années sur l'usage de certains types de matériaux qui permettait de miniaturiser justement les moteurs de ce type de technologie à propulsion électrique. Et donc, ce chercheur, lui, avait une expérience matériaux. Moi, j'avais une expérience du domaine spatial. Hein, je gérais des projets d'équipements embarqués sur satellite. Et donc, on a eu une rencontre un peu par hasard où on s'est dit comment continuer à travailler sur ce projet-là, donc comment trouver des financements en particulier. Et c'est arrivé à un moment où à la fois il y a eu un fort soutien de l'État français pour des projets, ce qu'on appelle de transfert de technologie, c'est-à-dire des projets qui étaient menés dans des laboratoires et qui pouvaient être d'un intérêt économique, donc qui pouvaient être d'intérêt pour créer une entreprise. Et au même moment, en fait, il s'est trouvé que c'était le début vraiment de la transformation du marché spatial, du domaine spatial, par ce que je vous mentionnais tout à l'heure, qui était la réduction en taille des satellites pour ces usages nouveaux et pour ces systèmes nouveaux sous forme de constellations. Et donc, de façon un peu concomitante, à la fois cette rencontre avec ce chercheur et à la fois ce marché du spatial qui commençait à très sérieusement se transformer, eh bien, le sujet de la miniaturisation des moteurs est devenu évident. Et la conclusion a été de dire, voilà, il faut qu'on y aille, il faut qu'on trouve la bonne technologie et surtout, il faut qu'on trouve les financements pour continuer le projet et en faire une entreprise, ce qu'on a fait, on a démarré en 2016 un projet de transfert de technologie dans le laboratoire de recherche où je travaillais. Et en 2017, après avoir obtenu des bons premiers résultats, on crée l'entreprise ExoTrail.
Alors, pourquoi en France n'avons-nous pas eu ce genre d'initiative plus tôt ?
Ça aussi, c'est lié à l'évolution de ce marché où, en France, en Europe, on savait faire des moteurs, des propulseurs électriques depuis quelques années. C'est pas l'Europe hein, qui a inventé cette technologie-là, c'est globalement les Russes et les Américains dans les années 70, donc c'est assez ancien. C'est une technologie qui est difficile, très difficile à mettre au point, mais c'est une technologie qui, jusqu'alors, avait été développé pour les satellites qui existaient à ce moment-là, qui étaient des très gros satellites. Et donc, c'était des très gros moteurs, parce que plus votre satellite est gros, et plus il vous faut un moteur puissant pour le bouger. Mais il y a 5-6 ans, là, on commence à voir l'émergence de plus petits satellites. Et donc, la question s'est posée de se dire, mais il va falloir, à un moment donné, qu'on miniaturise aussi les moteurs. Et là, c'est compliqué pour des acteurs industriels, qui ont déjà passé beaucoup d'années à développer leurs très gros moteurs, même s'ils ont potentiellement les connaissances et la capacité à développer des plus petits moteurs, c'est une question d'agilité et de rapidité d'exécution. Et c'est là où l'intérêt d'avoir des petites nouvelles entreprises type start-up est très fort, parce qu'on peut nous focaliser sur un seul produit au démarrage et d'aller très vite dans les premières itérations. Et donc, ce n'est pas tant qu'en France, la technologie n'existait pas, parce qu'il y a des gros acteurs industriels en France et en Europe qui maîtrisent aujourd'hui ce type de technologie. C'est juste que ces industriels-là n'avaient pas encore décidé et ne pouvaient pas vraiment en fait, se positionner rapidement sur de la miniaturisation de ces moteurs pour suivre l'évolution du marché. Et donc, c'est là où nous, on a saisi l'opportunité, hein, après avoir analysé qu'on avait à la fois une technologie avec ce chercheur, la connaissance du marché avec l'expérience que j'avais, la connaissance du domaine spatial que j'avais en étant au CNRS, qu'on s'est dit, il y a une opportunité. Les gros acteurs industriels ne se mettent pas aujourd'hui sur la miniaturisation, donc il y a opportunité pour nous, on y va, on fait ce projet-là et on crée ExoTrail.
Alors, l'arrivée de ces nouveaux propulseurs peut-elle renforcer la dynamique du développement des nanosatellites du New Space qui se développent très rapidement en Europe et pourquoi ?
Alors, la réponse est oui. Ce qui s'est passé au début où le marché du spatial a évolué avec cette tendance à faire du tout petit satellite, la miniaturisation des moteurs n'avait pas encore été faite. Et donc, il y a eu beaucoup, et il y a encore pas mal de tout petits satellites qui sont lancés sans propulseur. C'est-à-dire, globalement, ils vont se détacher de la fusée et puis ils vont rester là où ils sont éjectés. Et donc, ils ne vont pas forcément pouvoir rejoindre des orbites où ils pourraient mieux fonctionner, par exemple. Donc, il y a déjà un premier intérêt à voir l'arrivée de ce type de moteur, c'est qu'on va pouvoir doter l'ensemble de tous les satellites de solutions de propulsion efficaces qui vont permettre finalement de rendre des services plus efficaces. Parce que c'est bien ça, finalement, l'équation intéressante au final, c'est que les opérateurs de satellites puissent imaginer des services pour des besoins terrestres. Et ces services, en fonction de la nature de ces services, et bien les satellites doivent être à certaines altitudes, à certaines positions qui ne sont pas forcément celles de la fusée au moment où ils sont largués. Et donc, il faut avoir un besoin de mobilité, embarqué ou pas, ça on va y revenir, mais il faut avoir un besoin de mobilité. Et donc, la réponse est oui, ces nouveaux propulseurs peuvent justement accélérer et surtout rendre plus efficace l'usage de l'espace.
Alors, vous développez. Est-ce un avantage pour l'Europe par rapport aux États-Unis et pourquoi ?
Alors, je ne sais pas si c'est un avantage. En tout cas, c'est très bien qu'il y ait des acteurs comme nous. On n'est pas seul, hein, bien sûr. C'est un paysage assez concurrentiel, mais c'est très bien. Et il faut savoir que l'Europe a beaucoup de compétences dans ces sujets-là. Bien évidemment, il y en a aussi beaucoup aux États-Unis, mais globalement, la position aujourd'hui des acteurs européens, en particulier sur les sujets de propulsion, n'est absolument pas en retard par rapport à ce qui se fait aux États-Unis. Donc, c'est un point assez notable, hein. Souvent, les États-Unis sont assez en avance d'un point de vue technologique sur la miniaturisation de la propulsion et de la prise en charge du sujet de mobilité dans son ensemble dans l'espace, l'Europe est encore avancée et a encore une carte à jouer pour potentiellement faire émerger des nouveaux leaders du spatial. Au même titre que SpaceX a émergé il y a une dizaine d'années aux États-Unis sur le sujet des lanceurs, l'Europe a encore aujourd'hui, la France en particulier, la capacité à faire émerger des nouveaux leaders de la mobilité spatiale.
Alors, vous développez différents logiciels de simulation et d'opération de mission comme ExoOps. Concrètement, comment fonctionnent ces logiciels ?
Comme je vous l'ai dit au début, on développe, nous, un ensemble de produits de mobilité, un ensemble de solutions de mobilité. Il n'y en a pas qu'une, hein, c'est exactement si vous faites l'analogie avec une société de logistique terrestre. Une société de logistique terrestre, elle va s'appuyer sur des entrepôts, elle va s'appuyer sur des logiciels d'optimisation de route pour vous livrer vos colis. Et puis, elle va s'appuyer sur des véhicules, des bateaux, des avions, des camions, etc. Dans l'espace, ça va être la même chose. Il n'y aura pas une seule solution unique de mobilité. Et donc, c'est pour ça que l'approche d'ExoTrail, qui est tout à fait unique, hein, dans le monde, c'est de faire cette analogie-là et de se dire... Pour la logistique terrestre, pour assurer les besoins de mobilité dans l'espace, il faut à la fois du logiciel pour, comme je vous disais tout à l'heure, bien comprendre le besoin de mobilité d'abord. Donc ça, c'est notre logiciel de conception de mission qui s'appelle ExoOps Mission Design, qui est globalement un logiciel dans lequel vous allez décrire votre satellite, vous allez décrire la mission que vous voulez faire. Par exemple, vous êtes un nouvel acteur, un nouvel opérateur de l'espace, et vous dites, moi, j'ai besoin d'aller vérifier ce qui pousse dans mes champs ou dans tous les champs de France pour vérifier que les récoltes sont bien arrosées, enfin que les plantes sont bien arrosées, etc. etc. Ce logiciel-là, vous lui rentrez toutes ces informations-là, et ce logiciel va vous dire, OK, pour faire ça, il vous faut, je dis n'importe quoi, mais il vous faut 15 satellites, il vous en faut 5 à 500 km d'altitude, il vous en faut 5 à 600, et puis les 5 derniers, il faut les répartir un peu différemment et un peu de façon continue autour de la Terre. C'est ça que permet de faire ce logiciel. C'est d'abord de bien comprendre pour votre besoin combien il va falloir de satellites, à quel endroit il va falloir les mettre. Ça, c'est la première partie du logiciel. Après, comme je vous disais, il faut implémenter une solution sur le satellite. Donc, c'est soit un moteur, soit ce qu'on appelle le Space Van chez nous, qui est un service de transport, l'équivalent du ticket de bus, transport en commun. Et puis, dernier produit, qui est une fois que vous avez votre satellite dans l'espace, il faut ce qu'on appelle l'opérer. C'est-à-dire qu'il faut communiquer avec lui, et il faut le faire bouger. Et ça, c'est un logiciel qu'on développe qui s'appelle ExoOps Operations, qui va en fait récupérer toutes les données de bonne santé du satellite, qui va récupérer toutes les données de position du satellite et qui va prévoir les mouvements du satellite pour aller le positionner correctement à l'endroit où il va devoir opérer, pour aller le maintenir à la position, comme je vous disais tout à l'heure, ou en fin de vie pour le faire bouger. Et donc, c'est un logiciel qui va permettre de préparer ce qu'on appelle les commandes à envoyer, les ordres à envoyer au satellite pour lui dire « Ok, demain, il faut que tu allumes tes moteurs pendant tant de temps dans telle direction pour rejoindre la position à laquelle tu as besoin de fonctionner. » Donc, c'est un logiciel vraiment d'opération de satellite. Et ça, ça nous permet un peu de boucler la boucle. Hein. C'est un concept de hub de mobilité là, qu'on a introduit il y a quelques mois, où vous définissez d'abord votre besoin de mobilité avec notre logiciel de conception mission. Vous solutionnez ce besoin par la sélection soit d'un moteur, enfin d'une solution moteur, soit par un service de transport. Et dernière étape, c'est une fois que vous êtes dans l'espace, il vous faut opérer avec un logiciel votre satellite. Et puis, si vous voulez étendre votre service, vous recommencez la boucle pour prévoir vos futurs satellites, et ainsi de suite.
Qu'en est-il des solutions de stockage et de régulation fluidique pour satellites exofluides ?
Exofluide, chez nous, c'est un sous-produit. Nos moteurs utilisent du carburant, ce qu'on appelle un ergol dans l'espace, mais peu importe, c'est du carburant. Et du coup, le carburant qu'on utilise, c'est un gaz. C'est un gaz noble qu'on appelle du xénon, qui est finalement le gaz qui permet d'avoir les moteurs les plus performants possibles dans cette technologie-là. Et ça, c'est fondamental parce que il y a besoin de performance justement pour aller vite, pour être efficace et encore une fois, pour amener vos satellites le plus vite possible là où ils vont pouvoir opérer, et in fine générer leur mission et générer du revenu pour les opérateurs qui les utilisent. Et donc, nos propulseurs intègrent une partie de gestion du carburant. Donc, on stocke d'abord le carburant. Donc, on a l'équivalent de bouteille, un peu comme une bouteille de plongée, hein, où on va stocker notre carburant, notre gaz. Et puis, on a un ensemble de petits éléments sous système qui va en fait acheminer la bonne quantité de gaz, la bonne quantité de carburant à la bonne pression aux endroits du moteur où on va vraiment créer la poussée qui va permettre de faire bouger le satellite. Donc c'est ça qu'on appelle exofluide, qui est potentiellement un produit qu'on peut commercialiser seul parce qu'il y a parfois des utilisateurs dans le spatial qui ont besoin que de gestion de carburant, le nôtre ou d'autres types de gaz. Et donc, on peut être amené à proposer ce produit-là comme un produit un peu secondaire de notre portefeuille produit.
Alors, vous avez également mis en place des véhicules de transport orbitaux comme le Space Van. Quelles sont les caractéristiques du Space Van ?
Vous avez bien compris notre positionnement avec ces différents produits. Parfois, comme je vous disais, il vaut mieux non pas installer un propulseur sur tous vos satellites, mais prendre vraiment un ticket de transport. Donc, c'est vraiment un service de transport qui, après le lancement de la fusée, va vous amener à l'endroit où vous devez opérer, où votre satellite doit fonctionner. Et ça, Ça passe par ce qu'on appelle un véhicule de transfert orbital, que chez nous, on appelle le Space Van, pour que le nom soit un peu plus sympa. Et en fait, qu'est-ce que c'est le Space Van, ou qu'est-ce que c'est qu'un service de transport orbital? C'est, globalement, c'est un satellite un peu gros qui va contenir des satellites plus petits. Donc, c'est un satellite convoyeur. C'est le camion avec sa remorque, globalement. Vous imaginez encore une fois le modèle logistique, c'est un véhicule logistique, c'est l'équivalent du camion, donc nous c'est un petit camion, c'est pour ça qu'on l'appelle un van, un space van. Et dans ce satellite, vous allez avoir plusieurs petits satellites, et après le lancement de la fusée, donc le space van va être accroché à la fusée, le space van va ensuite lui se déplacer, rejoindre les positions où les petits satellites qu'il contient doivent aller. Et au moment où la position est rejointe, le satellite est largué. Et puis ensuite, le Space Van va à sa deuxième position pour aller larguer son deuxième satellite, et ainsi de suite. Donc, c'est un véhicule, c'est un satellite convoyeur qui aura la capacité d'amener à plusieurs endroits dans l'espace plusieurs centaines de kilos de petits satellites.
Alors, vous avez conclu un accord avec l'Américain Elon Musk SpaceX pour mettre sur orbite en octobre 2023 un Space Van via une fusée Falcon 9. Comment avez-vous été repéré et sélectionné?
Alors là, je vais casser un peu le mythe. C'est pas qu'on a été repéré et sélectionné. C'est aujourd'hui, Exotrail introduit sur le marché son nouveau produit, sa nouvelle offre de service qui utilise le véhicule Space Van, hein, donc qui est vraiment une offre de déploiement après le lancement. Et quand on introduit un sujet comme ça, il faut faire un premier vol pour démontrer que le produit marche bien. Donc ce premier vol, on l'a positionné fin d'année prochaine, donc fin 2023. Et ce premier vol, bah, il faut le réserver. Il faut acheter globalement une place sur une fusée pour rejoindre l'espace. Et c'est ce qu'on a fait. On a regardé un peu toutes les fusées qui étaient disponibles pour lancer un véhicule comme le Space Van à l'horizon fin 2023. Et c'est finalement la fusée Falcon 9 de SpaceX qui était disponible. Il restait de la place disponible à bord. Et donc, on a simplement acheté à SpaceX une place à bord. Donc là, c'est plutôt une relation client-fournisseur que sélectionner et lauréat. Voilà.
Mais après, c'est une bonne communication à l'international. Ça peut valoriser encore plus Exotrail, quoi. Si ça fonctionne bien et que ça répond concrètement à tous les objectifs donnés, quoi.
Alors, exactement, c'est pour valider en fait cette nouvelle offre, ce nouveau service, il faut faire un premier vol. Et donc, si bien évidemment le premier vol est réussi, derrière, c'est une validation et c'est une commercialisation de l'objet, du service de cette nouvelle offre, au même titre qu'on l'a fait sur le propulseur. Mmh. En 2020, on a fait une démonstration, un premier vol de notre technologie de propulsion qui s'est très bien passé. Et à partir en fait de cette date-là, on a eu ce qu'on appelle de l'héritage en vol, hein, qui est très important dans le spatial. Tant que vous n'avez pas fait la démonstration que votre produit fonctionne dans l'espace, c'est toujours plus difficile de devenir un acteur commercial. Donc, c'est ce qu'on a fait sur la partie propulsion et c'est ce qu'on s'apprête à refaire sur la partie Space Van.
Alors, de plus en plus, la nouvelle technologie semble se développer à grande vitesse via la création de startups notamment, et celles liées au spatial, comme on vient de le voir. Mais l'un des défis de notre modernité est de limiter l'impact environnemental en tenant compte de toutes les connaissances qu'on accumule depuis plusieurs décennies sur notamment le dérèglement climatique, la fonte des glaces, la pollution. Une grande partie des entreprises s'engagent sur cette conscience collective afin de limiter leur impact sur les différents grands projets que développent les grands groupes, notamment Airbus, Lonera, Ariane Group ou d'autres. Eh ben, il y a cette prise de conscience sur les projets qu'ils développent. Qu'en est-il chez Exotrail?
La réponse est très simple, hein, c'est favoriser en fait la mobilité dans l'espace. Le but final, c'est de rendre l'espace plus efficace. Aujourd'hui, si vous envoyez des objets dans l'espace qui ne sont pas capables de bouger, ce n'est pas une utilisation durable de l'espace. Et donc, très simplement comme réponse, le positionnement d'ExoTrail est, par l'apport de solutions de mobilité, simplement de rendre l'espace plus efficace, plus efficient et donc plus durable. Et en particulier pour la gestion des débris spatiaux, puisqu'en fin de vie, nos solutions de mobilité permettent justement d'éviter de multiplier les débris spatiaux. Donc, on est en plein dans ce sujet-là chez ExoTrail.
Très bien. Alors, pour terminer, que conseillez-vous aux jeunes filles et aux jeunes garçons intéressés par les sciences en général et le spatial en particulier?
La réponse aussi assez simple ici, c'est un peu ce que je disais au début. Il y a plein de façons d'arriver à travailler dans le domaine spatial. Globalement, le spatial a besoin de tous les métiers d'ingénierie, mais pas que. Hein. Après, quand on est une entreprise comme nous, on a besoin de plein d'autres fonctions qu'on appelle des fonctions support. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment travailler sur des sujets techniques dans le spatial, vous pouvez faire à peu près toutes les formations d'ingénierie qui sont disponibles. Comme je disais, il faut de la mécanique, il faut de l'optique, il faut de l'électronique, il faut du logiciel. Donc, c'est extrêmement vaste. Donc, ne pas penser qu'il y a un type de formation donnée pour arriver au spatial. Il y en a une multitude. Et c'est justement par le choix de formation souvent généraliste, complété par des stages, hein, comme je mentionnais au début, qui va vous permettre de vous faire une meilleure idée de est-ce que c'est vraiment ce domaine-là qui m'intéresse, in fine, mais aussi dans ce domaine-là, quel est vraiment le métier qui m'intéresse. Et donc, ne pas hésiter, c'est un peu le message, hein, à multiplier les opportunités de faire des stages, multiplier les opportunités de rencontrer des gens aussi qui travaillent dans le spatial. Hein. On est certes très occupé, mais on est aussi prêt à témoigner comme on le fait aujourd'hui, pour essayer de donner l'envie à tous les étudiants de rejoindre ce domaine qui est passionnant.